Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui le Christ-Roi, belle et grande fête qui tenait tant à cœur à Monseigneur Lefebvre. Et on peut dire que tout le désir, tout le travail de Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il se rendait à Rome, était de ramener la Rome qui glissait vers le laïcisme, la ramener au Sacré-Cœur de Jésus. Dans la lettre au cardinal Sepper, il parle de ramener au doux règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Monseigneur avait été effaré et peiné, blessé, et en même temps il ne pensait pas que Rome puisse en arriver là. Lorsqu'il avait appris que c'est Rome qui avait demandé la laïcisation de plusieurs États, discutant avec le nonce à Berne, il dit « Mais enfin, éminence, Pie XI a bien rappelé la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur les pays. » Et le nonce lui répond « Ah non, mais cette encyclique, il ne l'écrirait plus aujourd'hui, ça n'est plus possible, le Christ ne peut plus régner. » Ce n'est à vrai dire que la confirmation de Vatican II, qui a prêché un tel relativisme, une telle fausse liberté de conscience, c'est-à-dire une indépendance totale, qu'on peut dire que Vatican II a supprimé à notre Seigneur Jésus-Christ tous ses sujets, et par là a cherché à faire disparaître sa royauté. Seulement voilà. Même si le sujet ne reconnaisse pas la royauté de notre Seigneur, celui-ci n'en est pas moins roi. Voyez la parabole dans l'Évangile des ouvriers à la vigne et des serviteurs qui se révoltent contre le roi. Le roi envoie son fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et ils le mettent à mort. Alors le roi punit ses serviteurs et les met à mort également. Sa royauté n'était peut-être pas reconnue, mais elle était bien réelle. La grande complicité des catholiques qu'on a appelés libéraux avec le laïcisme, ça a été de déclarer que le gouvernement de la société civile, les États comme ils disent, et l'Église sont deux choses totalement séparées, parce que l'une s'occupe de l'éternité et l'autre s'occupe d'ici-bas. Ça, c'est les libéraux. Ils n'ont pas d'arguments à donner. Ils donnent toutes sortes d'arguments. L'argument principal, c'est la théorie serait que, mais en pratique, on ne peut pas. En réalité, ils n'ont pas foi en la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Par là, ils se font complices des laïcistes qui, eux, alors sont beaucoup plus radicaux. Croyez en Dieu si vous voulez, affirmez éventuellement la divinité de Jésus-Christ si vous voulez, mais ne prétendez pas affirmer son règne et encore moins établir son règne. Il est évident alors que si notre Seigneur n'est pas roi, sa divinité n'a plus beaucoup d'influence et ne gêne plus beaucoup ses adversaires. L'Église moderne était bien embêtée et bien ennuyée que Pie XI ait établi la fête du Christ-Roi que nous fêtons demain, dernier dimanche d'octobre. Elle ne pouvait difficilement s'en débarrasser, alors elle a fait beaucoup mieux, ça c'est le génie du démon. Elle l'a changé, elle l'a tordu. Elle a déplacé la fête du Christ-Roi au dernier dimanche de l'année pour dire, vous voyez, la royauté de Jésus-Christ, c'est celle du jugement dernier, rien d'autre, pas avant. Il l'appelle Jésus roi de l'univers, ce qui n'engage pas à grand-chose, hein, roi de l'univers en général, mais pas roi des royaumes, pas roi des nations, pas roi des sociétés, non. Pourquoi le Christ règne-t-il sur les sociétés civiles, sur les États, ce qu'on appelle les États, mais ce n'est pas le bon mot, parce que État, justement, est une déformation, ça décrit la structure. Autrefois, on disait les royaumes, les principautés, les cités. Il faut lire les deux patries, le livre Les deux patries de Jean de Vigry pour voir quelle est l'habileté profonde des révolutionnaires à se servir des mots de patrie, de nation et tout cela, à chaque fois dans un sens différent selon ce qui les arrange. Pourquoi donc Dieu règne-t-il? Pourquoi Jésus-Christ règne-t-il? Parce que on ne peut pas séparer le chemin du but. Parce que l'homme ici-bas est un pèlerin qui doit chercher le ciel, qui est destiné au ciel, qu'il le reconnaisse ou qu'il ne le reconnaisse pas, ça c'est une autre affaire. N'empêche que tous les hommes, même les non-baptisés, rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons, avec saint Thomas, posé la question, Jésus-Christ est-il la tête de tous les hommes et est-il la tête même des méchants? Et saint Thomas répond, oui, en ce sens que tous les méchants sont appelés à se mettre sous Jésus-Christ, qui est le chef, le seul, l'unique vrai chef. On peut le dire d'une autre manière. L'homme a ici-bas deux vies, la vie naturelle et la vie surnaturelle, et étant donné que les deux vies sont dans le même sujet, on ne peut pas les séparer. On peut les distinguer, bien entendu, mais on ne peut pas les séparer. Quand vous avez un père de famille qui exerce un métier, on ne peut pas faire comme si celui qui exerce le métier n'était pas père de famille. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec le capitalisme, avec le communisme. Il faudrait séparer cela. L'homme, dans son métier, est une machine de production. Après ça, il rentre chez lui, en famille, il fait ce qu'il veut, mais ça ne regarde pas le patron. C'est tout à fait faux, cela. Le père est d'abord un père de famille, et son métier est en relation avec son statut de père de famille, avec sa charge, ses droits, ses devoirs de père de famille. Le métier est au service du père de famille et non pas l'inverse. Or, l'Écriture sainte nous le dit bien, nous sommes citoyens des cieux parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Bien sûr, nous sommes citoyens des cités d'ici-bas, mais il est évident que l'un domine l'autre, la cité du ciel domine la cité de la terre. Bien sûr, l'Église n'a pas reçu mission de diriger directement les activités humaines. Seulement, elle est une société tellement parfaite, son enseignement est une telle sagesse, que nécessairement cela a une répercussion. J'ai participé il y a quelques années à un congrès universitaire relatif à une question de gouvernement de l'Église, congrès universitaire de la République française, congrès en droit. Et j'ai demandé à l'un des organisateurs pourquoi ils étudiaient cette question du gouvernement de l'Église alors qu'ils étaient des professeurs de droit constitutionnel français? Celui-ci m'a répondu, mais parce que l'Église est pour nous un modèle, une source d'inspiration. Il ajoute aussitôt, attention, je ne suis pas croyant. Et il voulait bien me montrer qu'il était professeur laïque dans une université laïque. Malgré tout, qu'est-ce que vous voulez? Même un professeur laïque, quand il est honnête, est bien obligé de reconnaître la sagesse de ce qui vient de l'Église, parce que ça vient de Dieu. Et puis, c'est sage aux yeux de tous les hommes qui sont honnêtes. C'est ce que les papes appellent la mission civilisatrice de l'Église. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle le Christ règne sur les sociétés civiles. Parce qu'il est étant le roi des cieux, il est le roi de toute société qui mène les hommes à leur perfection, et les hommes n'ont pas deux perfections. Ils n'ont pas une perfection de la terre séparée de la perfection du ciel. Il y a donc une subordination des nations, des cités, des sociétés, des royaumes, à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui entraîne une subordination, indirecte peut-être, mais réelle, à l'autorité de l'Église, puisque C'est par l'Église que Jésus-Christ règne ici-bas sur la terre. Jésus-Christ a établi son règne par sa croix, par sa passion. Parce que l'homme s'était révolté. Le premier péché de l'homme, c'est cela, c'est une révolte. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nolumus unc regnare supernos. C'est ce que les Juifs disent à Pilate lorsque Pilate leur dit qu'il ne peut tout de même pas crucifier leur roi. Ils répondent, mais nous n'en voulons pas. Or, justement, et cela est leur grande défaite, ils ont refusé la royauté de notre Seigneur, ils ont mis notre Seigneur à mort. Et en mettant notre Seigneur à mort, notre Seigneur a rendu un tel culte à Dieu qu'il a établi pour toujours sa royauté sur terre, et il a tellement racheté les hommes qu'il les a transformés de l'intérieur, que ceux-ci ont battu leur coulpe, comme ce centurion qui, après avoir présidé à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, se bat la poitrine en disant « Nous avons mis à mort un juste. Nous avons mis à mort le Fils de Dieu. » Désormais, toute vertu, toute grâce, tout retour à Dieu ne se peut se faire que par la croix. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit dans des sermons sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et sur sa croix. Je médite de vous faire de nouveau un sermon sur l'importance du sacrifice rédempteur. Mais vous le savez bien, mes bien chers frères, la croix est le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on ne dise pas que sa royauté serait une tyrannie sur les nations, non, c'est une royauté d'amour, parce que notre Seigneur, en rétablissant l'observance des 10 commandements, a restauré l'amour entre les hommes et surtout des hommes avec Dieu. Or, vous le savez, mes bien chers frères, la passion de notre Seigneur se continue dans le sacrifice eucharistique, qu'on appelle la messe. Quand Monseigneur Lefebvre nous parlait de la société chrétienne, c'était toujours en lien avec le Saint-Sacrifice de la messe. Toute l'Église l'enseigne, tous les papes l'ont rappelé face au laïcisme. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse rendre les peuples vertueux, qui puisse les rendre soumis à leur chef. Il n'y a que le sacrifice de la messe qui puisse rayonner sur les cités et les transformer. Comment pouvons-nous aujourd'hui restaurer le règne du Christ? Tout d'abord, nous devons maintenir notre foi en sa royauté. Que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous proclamons dans le Pater. Bien sûr, cela peut paraître inefficace. Mais c'est parce que justement nous sommes du monde d'ici-bas que nous cherchons trop l'efficacité aux dépens de la fidélité. Vous voyez les martyrs lorsque ils sont fidèles à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est efficace ou pas efficace. La divinité de Jésus est niée et eux, ils l'affirment. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde d'ici-bas, parce qu'ils appartiennent plus au monde de Dieu qu'au monde d'ici-bas. Et c'est ainsi d'ailleurs que le sang des martyrs a été une semence de chrétiens, parce que tous ceux qui étaient honnêtes ici-bas, et en plus tous ceux que la grâce de Dieu éclairait, or Dieu éclaire tous les hommes. Et il faut bien nous rendre compte de cela. Dieu éclaire tous les hommes, il attire tous les hommes à lui. Et ce sont nos infidélités qui sont des obstacles. Il éclaire les hommes, et puis les hommes voient des chrétiens qui finalement restent attachés aux choses d'ici-bas et ne tiennent pas plus que cela aux choses d'en haut. Alors évidemment, cela les aveugle. Nous, nous croyons que c'est à nous de rendre les grâces de Dieu efficaces. Et nous nous disons, si nous sommes martyrs, eh bien nous n'allons pas obtenir l'efficacité que nous devons pour convertir les gens. Mais c'est pas vrai. L'efficacité de la grâce ne dépend pas de nous. Nous sommes plutôt des obstacles, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque nous proclamons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous levons un obstacle. Notre Seigneur établit sa royauté. Tant que nous résistons à cette royauté, tant que nous ne la reconnaissons pas, comment voulez-vous que les hommes la reconnaissent? Mais dès que nous l'affirmons, d'abord nous la proclamons, et c'est quand même une royauté qui est éternelle, qui dépasse les choses d'ici-bas, et puis même les hommes d'ici-bas finiront par la reconnaître. Voyez comme les infirmiers, infirmières, médecins sont étonnés lorsqu'ils voient des bons chrétiens qui parlent sereinement de leur mort, qu'ils savent qu'ils vont mourir, qui n'ont pas peur de la mort. Ils se rendent bien compte que ces chrétiens ont la foi dans la vie éternelle et que cette vie éternelle existe. Maintenant, imaginez un chrétien qui dirait « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Comment voulez-vous que le païen qui le voit croit à la vie éternelle? Et le bon Dieu permet que le diable, dans sa furie, persécute ceux qui sont fidèles à sa royauté, mais en même temps, il permet que ces épreuves deviennent des preuves. Plus notre fidélité est payée d'un prix élevé, plus nous faisons la preuve qu'elle est vraie. Deuxième moyen de restaurer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut suivre la providence et non pas la précéder. Aujourd'hui, c'est l'heure de la passion. Ce n'est pas l'heure de la résurrection. Et notre Seigneur dit à saint Pierre au jour de la passion, « Remets ton épée au fourreau ». Ne croyez pas, mes bien chers frères, que nous pourrons restaurer la société, la grande chrétienté telle que nous la désirons. À l'époque des persécutions, la transformation de la société a été très lente, très progressive. Il faut lire l'histoire de l'Église pour voir comment la société s'est petit à petit christianisée. Nous sommes appelés, nous aussi, à la rechristianiser petit à petit. Et cela se fait au milieu des persécutions. Nous commençons par nos familles. Rappelez-vous le sermon que je vous ai fait sur les familles en pays communiste. Nos familles, nos amitiés, parce qu'une amitié, c'est déjà un début de société. Les œuvres de miséricorde. Tout cela, je vous en ai parlé dans le sermon où je vous ai dit comment tenir. Je me répète un petit peu, c'est possible. À vrai dire, je n'avais pas l'intention de vous faire ce serment sur le Christ roi, parce que j'estime que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais l'Église nous donne cette fête tous les ans, et je crois qu'il est tout à fait légitime tous les ans de revenir sur le sujet, quitte à nous répéter. Et puis, alors là, il faut en parler, le sacrifice, la pénitence. Nous ne pouvons pas être les disciples du Christ sans être les disciples de la croix, porter notre croix chaque jour. La Sainte Vierge à Fatima demande la pénitence. À la Salette, elle a voulu que l'ordre de la Mère de Dieu, qui finalement n'a pas été instauré à cause de la malice des hommes, soit un ordre dans lequel on pratiquait les pénitences volontaires. Je vais bientôt mettre sur mon site en vente le livre de Sœur Josepha Menendez, qui a vraiment, à qui notre Seigneur a demandé de se sacrifier pour son règne. Voyez sainte Marguerite Marie à la Coque, à qui notre Seigneur propose deux couronnes, une blanche et une rouge, et il lui dit « Choisis celle que tu veux, avec l'une et l'autre, tu me feras autant plaisir. » La couronne rouge était la couronne d'épines, bien entendu, puis l'autre était une couronne de fleurs. Et sainte Marguerite Marie dit « Puisqu'elles vous font toutes les deux autant plaisir, je choisis la couronne d'épines pour vous être plus semblable. » Or, sainte Marguerite Marie a été la messagère non seulement du Sacré-Cœur, mais de la royauté de notre Seigneur, puisqu'il voulait que l'emblème de son Sacré-Cœur figurât sur tous les drapeaux du roi de France. Où que vous vous tournez, vous constatez qu'il n'y a pas de rédemption sans le sang. Saint Paul le rappelle aux Hébreux, et l'effusion du sang est nécessaire. Alors, mes bien chers frères, commençons par ne pas sonner la cloche. lorsque nous voyons aujourd'hui tant et tant d'hommes et de femmes qui, sans être nécessairement chrétiens, refusent de céder au diktat du mondialisme, c'est-à-dire des ennemis du Christ, préfèrent perdre leur place que de se faire vacciner, refusent même de présenter des faux passes sanitaires alors qu'on le leur propose. Il serait tout de même malheureux que nous cherchions à préserver une toute petite place au soleil, alors que tant d'autres ont le courage de la fidélité de ne pas céder au mondialisme. Priez beaucoup pour le pape et les évêques qui ont une responsabilité effrayante dans la disparition du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il en va du pape et des évêques comme de Saint-Pierre. Une fois converti, notre Seigneur dit, eh bien maintenant, confirme tes frères dans la foi. Et aujourd'hui, mes bien chers frères, récitez la consécration du genre humain au Christ roi, comme l'a demandé le pape Pie XI, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.